Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le nombre d'écoliers bénéficiaires du programme des cantines scolaires reste réduit. Des partenaires sont appelés à agir d'ici 2032. Des personnes vivant avec handicap dénoncent la discrimination à leur égard et souhaitent une place dans les instances de prise de décision. Les réactifs et les antirétroviraux sont disponibles. Une réponse est du directeur du programme national de lutte contre le sida suite à des rumeurs faisant état d'un manque criant de ces produits. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kougimana. Éducation d'abord. L'objectif du gouvernement de couvrir toutes les écoles fondamentales des cantines scolaires d'ici l'an 2032 fait face au manque de financement et cela malgré son importance en matière de réduction du taux d'abandon scolaire. D'où donc il faut l'intervention des partenaires variés. Actuellement, seuls 7300 écoliers sont nourris pour un montant de 26 milliards de francs burundais alors qu'il fallait nourrir 2 900 000 écoliers, propos tenus ce mercredi à Gitega lors d'un atelier de réflexion et de sensibilisation des élus et des représentants de l'administration des provinces Gitega et Buhumuza sur leur rôle dans la réussite de cet objectif du gouvernement. Le pont avec Gérard Niwigira.
Pour le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Frédéric Vangirinama, toutes les écoles fondamentales seront dotées des cantines scolaires d'ici 2032.
Le gouvernement du Burundi a pris un engagement, fixé un objectif à atteindre en 2032 pour que chaque école et chaque enfant qui est à l'école soit nourri. À l'heure où je vous parle, le gouvernement du Burundi consente 26 milliards de francs bourg pour le programme d'alimentation scolaire. Et cela permet, en plus des différentes contributions des partenaires, à garantir une alimentation équilibrée à 730 000 élèves, soit un taux qui avoisine à environ 25%. Alors que l'objectif est de tendre vers 2 900 000. Le gouvernement également s'est donné comme objectif d'augmenter chaque année son budget pour avoir 100 000 élèves qui s'ajoutent à ceux qui bénéficiaient de cette alimentation.
De son côté, le gouverneur de la province Gitega Liboire Wigilimana trouve que le programme d'alimentation scolaire est plutôt une obligation.
Notez bien, l'alimentation scolaire, ce n'est plus une option, mais plutôt une obligation eu égard à ses avantages sur les points de vue nutritionnels, éducationnels, agricole et économique.
Toutefois, le directeur chargé des relations publiques et partenariats et plaidoyer à l'ONG World Vision, Bigirimana Jean, parle de manque de budget et réclame l'intervention des différents partenaires.
Ce programme est vraiment en train de rencontrer des défis liés à la diminution des budgets. Les budgets diminuent parce que les financements extérieurs sont presque coupés. Et si la tendance se poursuit, on ne voit pas comment on va continuer à gérer. C'est pourquoi, à part le budget du gouvernement, il faut que les parties prenantes, les partenaires au développement contribuent pour que le pari du gouvernement soit gagné.
Les conférenciers du jour ont indiqué que le programme de cantine scolaire a réduit le taux d'abandon scolaire et a relevé la réussite scolaire dans des écoles où il est appliqué. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro.
Plus de 4 milliards de francs burundais ont été donnés comme crédit à faible taux d'intérêt aux petits producteurs ruraux des anciennes provinces de Kayanza et Ngozi par des microfinances via la facilitation d'accès au crédit du programme PAIFARB financé par le FIDA l'an 2024-2025. Parmi les défis, certains coins n'ont pas de microfinance proche de ces petits producteurs et Protegahungu, coordonnateur des projets du FIDA, au nord du Burundi promet de résoudre ce problème par l'octroi de la technique facilitant les retraits et versements étant à la maison sans faire de longues distances, nous rapporte Apollinaire Muzagara.
Le projet d'appui à l'inclusion financière agricole rurale au Burundi, PAIFAR-B, place de l'argent dans la banque BND qui est à permettre aux microfinances partenaires comme la COPEC, CCM, MUTEC, Querilac et autres, à contracter des crédits et qui t'a donné à leur tour ces crédits aux coopératives agricoles et petits producteurs à un taux d'intérêt de 8%. Protéga Rungu, du FIDA au nord du Burundi, parle des coopératives agropastorales très avancées suite à cette inclusion financière. Il parle entre autres de Muhanga en commune Rango, où les petits producteurs sont à l'étape de s'acheter un camion Ben. Dans une réunion d'auto-évaluation sur les réalisations de l'an passé et budget annuel prochain, dans les ex-provinces Ngozi et Kayanza, le constat était que ces petits agriculteurs ont contracté plus de 4 615 millions de francs pour l'an 2024-2025. Parmi les 8 communes de ces deux entités, Matongo vient en tête avec plus d'1 200 000 000 de francs. Pourtant, certaines communes comme Kiremba restent réticentes, d'après Protegahou. Parmi les raisons, l'absence des guichets de ces microfinances proches de la population, l'insuffisance des réunions de sensibilisation sur les crédits et autres. Le PAIFAR-B promet de trouver remède à ces difficultés, à ces défis qui poussent les petits producteurs à ne pas contracter ces crédits qui, selon les expériences, poussent ces derniers à se développer. Pour l'exercice 2025-2026, environ 6 milliards de francs sont prévus pour 1152 bénéficiaires petits producteurs de la province Boutanière. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganir.
La discrimination et le fait d'être considérés comme des personnes incapables figurent parmi les obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. C'est ce qu'a dit ce jeudi la vice-présidente de la Confédération des réseaux des associations des personnes vivant avec handicap. Constance Katihabga demande au gouvernement de prendre en considération les personnes vivant avec handicap en les incluant dans les institutions. Elle encourage également les personnes en situation de handicap à ne pas se sous-estimer.
On ne peut pas dire que la personne vivant avec le handicap a sa place comme il faut, comme toute autre personne n'y a pas le handicap, parce qu'on observe toujours le problème de discrimination. On observe toujours ce problème de stigmatisation, le manque d'accès à des différents besoins spécifiques à ces personnes, le manque d'accès à l'éducation inclusive, manque d'accès à la santé pour que la personne se sente libre de circuler, libre d'exercer des activités génératrices de revenus, libre de vivre pleinement sa vie. Je dirais que la représentation n'est pas suffisante, voire même quasi inexistante. C'est parmi nos actions que la Confédération doit exercer dans son plan d'action quinquennal, c'est de faire le plaidoyer pour que nous puissions avoir une représentation dans les instances de prise de décision au Parlement, parce que c'est là-bas où on vote les lois et politiques, mais aussi dans d'autres institutions. La première chose que je ferai, j'interpellerai les autorités de mettre en place des textes d'accompagnement de la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées qui a été adoptée par le Burundi depuis 2018, la mettre en œuvre, instaurer ces textes d'application, mais aussi instaurer des programmes d'inclusion et des projets pour soutenir les personnes handicapées. Et pour les personnes handicapées, je les interpellerai de s'intégrer par eux-mêmes, de se sentir capables, de ne pas s'auto-stigmatiser, s'auto-discriminer, mais prendre le pas de premier pour s'intégrer dans la communauté, mais aussi de ne pas se sentir toujours pauvre des personnes vulnérables, plutôt de se sentir capable et exercer des activités qui peuvent les aider à leur développement, de leur famille et de et du pays en général.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Pour poursuivons avec cette édition. Le directeur du programme national de lutte contre le sida, PNLS, lance un appel à toutes les personnes souhaitant se faire dépister au VIH à se rendre dans les structures de santé car, dit-il, les réactifs et les antirétroviraux sont disponibles. Docteur Aimé Ndaizeye l'a dit ce jeudi dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision Isanganiro alors que ces derniers jours des informations circulent au sujet d'un manque de matériel et de dépistage dans certains hôpitaux, ainsi que de médicaments antirétroviraux destinés aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Suivez ces explications.
Les tests pour dépister le VIH sont suffisants dans le pays. Et d'ailleurs, le dépistage est décentralisé jusqu'au niveau des structures de soins les plus périphériques, les centres de santé. Mais il peut arriver que, peut-être au niveau de certaines structures, parce qu'ils font des réquisitions mensuellement, que les produits peuvent être épuisés avant que le mois ne s'écoule. Là, on les sensibilise pour que, quand le stock est épuisé, ils viennent rapidement faire des réquisitions au niveau des districts. D'ailleurs, là, nous avons déjà fait des réunions avec les gestionnaires des pharmacies au niveau des districts pour rapidement nous aider à encadrer les structures de soins afin qu'ils veuillent que les produits restent disponibles. Au niveau central, les produits sont là. Ce sont les sites maintenant qui font les réquisitions à la Camebou et qui, à leur tour, approvisionnent les structures de soins. Donc là, c'est de tranquilliser la population. Les tests sont disponibles et les médicaments pour le traitement antirétroviral sont aussi disponibles au niveau du pays. Et j'en profite pour dire aussi que par rapport aux réactifs pour faire le suivi maintenant de ces personnes, notamment la charge virale, le VIH, sont aussi disponibles parce que il ne suffit pas seulement de dépister ou de traiter, c'est aussi de faire le suivi, faire la charge virale pour voir si la charge virale est devenue indétectable parce que c'est ça l'objectif du traitement. Nous disons que ces activités, de façon globale, par rapport au dépistage, par rapport au traitement, par rapport au suivi de la charge virale, sont continuelles et les intras sont disponibles partout dans le pays. Et malgré la période actuelle de réduction de financement, nous devons tranquilliser la population parce que les services liés à sauver la vie des gens ont été maintenus, notamment le dépistage, notamment le traitement, notamment le suivi par la mesure de charge virale. Et nous saluons d'ailleurs les efforts du gouvernement parce qu'il fait une grande contribution par rapport à ça, mais aussi l'appui des différents partenaires. Nous sommes appelés maintenant à renforcer l'intégration des services et la participation de la communauté, mais aussi certaines activités qui coûtaient beaucoup d'argent. L'autre aspect qui est très très important, nous sommes à la phase d'élaboration de la feuille de route, de la durabilité de la réponse au VIH. Même au-delà de 2030, où les pays sont appelés à atteindre les cibles. Cette feuille de route va nous permettre de voir comment sécuriser les progrès que nous avons déjà et voir les interventions à mener pour que nous ne puissions pas retourner en arrière.
L'Ordre des professionnels comptables projette d'adopter des normes comptables internationales car elles permettent au secteur privé et public d'avoir accès à des informations fiables pouvant être utilisées pour prendre des décisions bien éclairées. Explication donnée par un membre du Conseil de l'Ordre des comptables OPC ce jeudi lors du 10e congrès de l'Ordre des professionnels comptables. Joachim Yamouremier demande au gouvernement de continuer le processus qu'ils ont entrepris vers l'adoption de ces normes.
Les normes internationales, on les appliquait depuis longtemps, mais je dirais qu'on ne les maîtrisait pas davantage. Alors maintenant, on s'est inscrit dans cet ordre parce que nous n'étions pas reconnus par l'IFAC. C'est comme un joueur de l'équipe nationale qui jouerait sans que la FIFA en soit garant. Au niveau de l'IFAC, on reconnaît les ordres nationaux par rapport à leur adhésion aux normes internationales. Donc nous avons décidé, soutenu par les Kenyans, une institution kenyane qui nous a précédé à adhérer à cet ordre, accepté de nous parrainer et sous le financement de la Banque mondiale et le ministère des Finances. Et nous avons renforcé les capacités des membres et avons obtenu des certificats qui prouvent que nous sommes désormais qualifiés dans les normes d'audit, les normes d'éthique et les normes comptables. Donc, un certificat qui nous confère une crédibilité reconnue à l'échelle internationale. Nous ne pouvons pas adhérer à des organismes aussi internationaux sans qu'il y ait un soutien du gouvernement. Parce que ce soit au niveau du secteur privé ou au niveau du secteur public, l'adoption des normes est très indispensable pour le rétablissement de la confiance envers les partenaires techniques et financiers. Donc, nous ne pouvons pas avancer seuls sans l'appui du gouvernement.
la lutte contre les violences basées sur le genre et l'éducation des jeunes à la collaboration sans violence, tels sont les thèmes abordés lors des formations offertes à 32 animateurs sportifs, dont 16 filles, par l'organisation Play International sur une période d'une année et demie. Certains bénéficiaires de ces formations ont indiqué qu'elles leur seront très utiles pour promouvoir le sport inclusif et contribuer à la protection des droits des enfants. Jean-Marie Vianney, Ngendakumana.
Lors de la remise des certificats ce jeudi pour ces amateurs sportifs qui ont suivi ces formations, Mubarakou Salami, représentant du Play International au Burundi, indique que ces formations ont permis aux encadreurs sportifs d'acquérir des connaissances afin qu'ils puissent aller-retour enseigner aux jeunes l'entraide et le respect mutuel.
À travers les différentes formations, animation socio-sportive, compétences psychosociales, lutte contre les stéréotypes de genre, vous avez démontré une capacité remarquable à transformer le sport en un véritable outil d'éducation, d'émancipation et de cohésion sociale. Votre certification n'est certainement pas une fin, c'est une étape. Une étape qui affirme que vous êtes désormais capable de porter de manière autonome une pédagogie sportive qui met l'enfant au centre, qui valorise chaque fille, chaque garçon et qui contribue à bâtir un environnement sûr, dynamique et inclusif.
Ce représentant du Play International au Burundi lance un appel aux bénéficiaires de ces formations afin qu'ils continuent à encourager les jeunes à travailler ensemble et à ne pas se livrer à la violence. Samuel Sabiumva, l'aide des bénéficiaires, affirme que ces formations l'ont aidé à enseigner aux jeunes des activités sportives adaptées à leur âge.
J'ai l'expérience, c'est-à-dire les compétences dans l'encadrement des enfants via les sciences socio-sportives et ça m'a permis d'acquérir les compétences qui vont me permettre de bien encadrer les enfants. En pédomon, j'ai bénéficié l'esprit d'équipe, la coopération, la patience, l'écoute.
De son côté, Christelle Ndikumasabo, également bénéficiaire, déclare que ce qu'ils ont appris les aidera beaucoup dans la promotion et la défense des droits des enfants.
Ils nous ont bien accompagnés, ils nous aidaient. Je m'en souviens le premier jour sur le terrain, j'ai eu peur d'envoyer les enfants et je disais qu'est-ce que je veux faire. Mais mon accompagnateur m'a aidé, il m'a dit tu dois appliquer ce que tu as appris. On n'arrivait même pas à exploiter nos talents, mais avec Play, nous sommes bien formés.
Ces formations organisées par Play International ont été offertes à 32 jeunes encadreurs sportifs, de 16 garçons et 16 filles, tous ici de la ville de Bujumbura. Et elles ont été dispensées sur une période d'un an et demi.
Point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Au revoir.